Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette journée de lancement de la revue Bien Symbolique, Symbolic Goods et également journée de lancement du programme Possible. On va revenir bien sûr sur tous ces éléments, mais je vais d'abord laisser la parole à Marie-Christine Lemardelet qui représente ici la mairie de Paris. Je vous
laisse la parole. Merci. Oui, je suis l'adjointe d'Anne Hidalgo pour l'enseignement supérieur, la recherche et la vie étudiante. C'est donc à ce titre que je pilote le programme Émergence. Donc, je voulais vous dire que j'étais très heureuse de vous accueillir ici à l'Hôtel de Ville, au nom de la maire de Paris, pour cette journée de lancement de votre revue bien symbolique Symbolic Goods, et rappeler, si jamais vous l'aviez oublié, que c'était issu du programme Émergence intitulé Possible de la promotion 2016. Alors, c'est un grand plaisir pour moi à double titre. Tout d'abord, parce que c'est une occasion pour nous de voir, au fond, une production, voir ce que deviennent les programmes d'émergence, parce que c'est assez rare qu'on puisse voir une concrétisation aussi précise des financements du programme d'émergence. Une efficacité qui fait que la ville de Paris soutient de manière très volontariste ce programme, parce que vous savez que la recherche ne fait pas partie des compétences obligatoires d'une ville, et donc c'est un projet politique de soutenir la recherche scientifique depuis Bertrand Delanoë, et Hidalgo a repris cette politique. L'efficacité d'émergence est singulière puisqu'elle n'oblige pas, elle ne flèche pas les programmes, mais elle vise en revanche un public particulier, c'est-à-dire des équipes émergentes, des équipes innovantes. Et ça correspond bien, si vous voulez, pour nous, à l'image, à la force de ce que représente Paris, et Paris au sens large, c'est-à-dire le grand Paris de la métropole, d'une capitale intellectuelle et scientifique, avec une recherche toujours en mouvement, un questionnement permanent, et aussi une recherche attentive au mouvement, aux transformations du monde dans tous ses aspects. Et c'est particulièrement le cas, et c'est un deuxième motif de satisfaction pour nous, dans les disciplines des sciences humaines et sociales, dans lesquelles votre projet s'inscrit parfaitement. Donc, comme moi-même, je suis littéraire, je suis professeure de littérature américaine à l'Université de la Sorbonne Nouvelle. C'est un motif de joie pour moi, même si, bien sûr, nous accueillons avec satisfaction également les programmes de sciences humaines, de sciences dites dures, j'aime pas beaucoup cette distinction, disons de sciences mathématiques, physiques, etc., et de médecine. Mais nous sommes profondément convaincus à la ville de Paris que les sciences humaines et sociales sont un outil indispensable de compréhension pour tout le monde, mais aussi pour les décideurs publics que nous sommes. Ce que vous produisez, ce que produisent les sciences humaines et sociales, c'est une ressource nécessaire, non seulement pour la construction, mais pour le déploiement de nos politiques publiques. Et c'est pourquoi nous favorisons systématiquement des collaborations. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que nous instrumentalisons la recherche, c'est toujours ça un peu la difficulté pour les chercheurs, ils ont peur de se faire instrumentaliser, il n'y a pas du tout cette notion-là. Mais il y a l'idée que les politiques doivent s'appuyer sur une recherche fondamentale de premier plan, une recherche fondamentale qui, pour nous, est un bien public de première nécessité. Ce n'est pas supplémentaire, là c'est sur le gâteau, tout ce qu'on veut, toutes ces métaphores un peu démodées d'ailleurs. Mais l'émergence, ça représente vraiment ça, ça représente la pointe de la recherche que la ville de Paris veut soutenir. Alors j'en viens juste au thème de votre journée, de la revue que vous inaugurez aujourd'hui. Le concept de bien symbolique, qui désigne, soit qu'il désigne des objets académiques, artistiques, d'information, d'autres choses encore, vous le direz mieux que moi. Le concept est essentiel à la compréhension des transformations contemporaines des champs de la culture. Et évidemment, le thème d'aujourd'hui, le thème du premier numéro, la circulation transnationale de ces biens est une composante indispensable de l'analyse de ce qu'il est convenu d'appeler la globalisation. ce phénomène dont nous mesurons chaque jour les contraintes, les risques, mais aussi l'enrichissement. Hier, j'étais à l'ouverture, enfin, une journée d'études du programme PAUSE, programme d'accueil des scientifiques en urgence, que la ville soutient aussi, où Patrick Boucheron a bien montré que c'est pas qu'on fait une faveur aux scientifiques en exil, mais qu'on s'enrichit de leur apport et qu'on ferait bien de leur dire merci aussi de venir nous enrichir de la sorte. C'est donc sous un angle plus positif que nous voyons cette globalisation, ce cosmopolitisme intellectuel, culturel et politique qui rend possible. Et donc, il me semble particulièrement heureux et significatif que cette rencontre, votre rencontre, ait lieu ici à l'Hôtel de Ville de Paris. Et donc, je vous souhaite une très belle journée et longue vie à votre revue, c'est pour les Côtes. Merci.
Merci beaucoup. Je rallume le micro. Merci beaucoup pour cette introduction, pour cette présentation. Bon, on va présenter bien sûr la revue et le programme possible un peu plus dans le détail. Mais d'abord, je voudrais dire que voilà, remercier un certain nombre de partenaires parce qu'une revue comme bien symbolique qui fait traduire les deux tiers de chacun de ces numéros est nécessairement un projet coûteux qui nécessite d'avoir des partenaires comment dire, généreux. Voilà. Et donc, je voudrais donc commencer par remercier au nom du comité de rédaction les institutions sans lesquelles ce projet n'aurait pu voir le jour. Alors, en particulier certaines, d'abord le laboratoire Crespa, qui héberge la revue sur le plan financier, qui contribue largement au financement aussi de cette journée, et dont le directeur Hervé Séry a eu la gentillesse d'accepter de conclure la journée avec Vincent Dubois, que je remercie également. D'avoir eu la gentillesse de conclure cette journée, enfin d'avoir la gentillesse de bien vouloir le faire. Je remercie également l'Université Paris Lumière, dont le soutien a été déterminant dans le lancement du projet l'an dernier. Aussi, il faut remercier le LabEx ICA et le laboratoire CESP, qui ont également apporté une contribution décisive. Et enfin, la chaire de recherche du Canada, les laboratoires SAGE, CITER, RIRA21 et GRESCO qui contribuent soit aux traductions, soit au fonctionnement du comité de rédaction. Je voudrais enfin, toujours au nom du comité de rédaction, remercier les presses universitaires de Vincennes, notre partenaire indispensable pour l'édition de la revue et la confection du site internet dont nous sommes très contents au sein du comité de rédaction. J'espère que vous partagerez notre impression. Et puis, bien sûr, nous remercions la mairie de Paris, qui nous fait l'honneur d'accueillir cette journée dans ses magnifiques locaux, et puis qui nous a retenus pour son programme Émergence. Nous remercions beaucoup pour ça, puisque c'est indispensable pour ce projet, pour la revue, et évidemment le programme possible qui y va avec. Je vais pour passer la parole à Sabrine.
Voilà. Ça va ? Oui. On n'a pas prévu de chorégraphie. On prévoira ça pour le numéro 100. La revue Bien Symbolique, Symbolic Goods publie en ligne, en accès libre et en deux langues, français et anglais, son premier numéro, dont le dossier principal, Artiste ordinaire, sera présenté dans un moment par l'un de ses deux coordinateurs ici présents, Marc Pernoud. Mais avant de présenter plus en détail le thème de cette journée de lancement, peut-être serait-il utile de revenir un peu sur cette notion de bien symbolique que nous avons choisi comme étendard pour notre revue. Donc les biens symboliques ou biens singuliers sont une catégorie de biens dont le point commun est que leur valeur est non pas indexée au matériel, c'est-à-dire au prix des matériaux qui les constituent ou au temps passé pour les réaliser, mais la valeur de ces biens est indexée au domaine du symbolique. Autrement dit, on n'évalue pas une œuvre ou un concept comme n'importe quel autre bien sur un marché, et c'est ce qui fait la spécificité de ces biens et du marché sur lequel elles circulent, des marchés. L'usage de cette notion de bien symbolique suppose plusieurs éléments que la revue revendique et fait sien. Cette notion permet de décloisonner et de penser ensemble les arts, les sciences, l'étude des producteurs, des médiateurs et des publics dans le domaine culturel, l'organisation des marchés, des institutions et la circulation des productions et des idées. Cette notion permet aussi d'envisager ensemble toutes les productions culturelles dans leur diversité, des plus légitimes aux plus ordinaires, puisqu'elle est aussi une manière d'approcher la construction symbolique du monde social, c'est-à-dire les discours, les modes, les idéologies, etc. Donc on va bien au-delà du culturel stricto sensu. Cette notion suppose aussi une approche spécifique, une approche scientifique spécifique, qui traverse les disciplines, c'est-à-dire une certaine manière d'analyser les arts, la littérature, la culture ou les idées, qui soit fondée sur des enquêtes rigoureuses, réflexives et circonscrites. Enfin, bien symbolique, Symbolic Goods, notre revue est bilingue. En cela, elle revendique une vraie inscription internationale en direction tant de la francophonie que du monde anglophone, à travers un intérêt particulier pour la langue, l'écriture, les enjeux et la pratique de la traduction. D'où le thème de cette journée de lancement, traduire, transposer, conçu comme une illustration en acte du projet global dans lequel s'inscrit la revue. En rassemblant sur ce thème des transferts culturels, pour une journée que nous espérons conviviale et accessible, à la fois des chercheurs de toutes disciplines et des professionnels de la culture ou des médias, il s'agit de mettre en œuvre les principes de dialogue interdisciplinaire, de décloisonnement et d'ouverture sur lesquels se fonde le programme de diffusion de la recherche dont la revue est à la fois le cœur et la vitrine. Jusqu'en 2020, en effet, la revue Bien Symbolique, Symbolic Goods est au centre d'un programme plus global intitulé « Pour des sciences sociales des biens symboliques en acte » que nous avons condensé sous un acronyme performatif, le programme Possible. Ce programme a été donc en 2016, comme le précisait Marie-Christine Lemardelet, l'un des trois lauréats en SHS du programme Émergence de la ville de Paris. Parce que ce programme permet à des jeunes scientifiques de lancer des projets en leur donnant non seulement le temps mais aussi les moyens de le faire, le programme Émergence est précieux et utile. Et faire autant confiance à des chercheurs, en particulier à des jeunes chercheurs, et en particulier issus de la sociologie, discipline qui n'a pas toujours eu bonne presse ces dernières années, ne va pas de soi aujourd'hui, et c'est vraiment peu de le dire. Donc on tient sincèrement à remercier la ville de Paris, donc Madame Le Mardelet, son équipe, et en particulier aussi Sophie Zuber et Anne Palmier, qui sont toujours disponibles et ouvertes à nos demandes les plus variées. Donc le programme Possible n'est pas un programme de recherche, car nous, l'équipe de Bien Symbolique, Symbolic Goods, n'initions pas de recherche stricto sensu, mais son objectif est tout aussi indispensable. Nous nous attachons à mettre ces recherches en lien les unes avec les autres, à les mettre en valeur, à les faire connaître, en proposant un espace d'échange et de publication qui soit non seulement légitime et crédible dans le champ scientifique international, mais qui soit aussi ouvert à un public non universitaire, intéressé par les thèmes qui sont les nôtres, enfin, c'est-à-dire voilà, professionnels des médias, de l'éducation, de la culture, mais aussi élus, artistes ou individus simplement désireux d'apprendre et d'échanger. Le programme Possible est né de ce double constat paradoxal, celui de l'extrême dynamisme de la recherche francophone dans le domaine des sciences sociales des biens symboliques, mais aussi celui du peu de circulation de ces travaux, tant dans l'espace scientifique international que localement, auprès du public, et ce alors même que les enjeux citoyens et démocratiques autour de ces questions et la demande d'enseignement, de conférences, d'expertise et d'échanges dans ce champ de spécialité n'ont jamais été aussi importants. Notre but est donc de fédérer les recherches sur les biens symboliques et de les diffuser dans les meilleures conditions possibles, non seulement auprès des chercheurs et des chercheuses eux-mêmes, mais aussi des professionnels de la culture, des élus, des artistes et plus largement des citoyens francophones ou anglophones. Pour cela, la particularité de la stratégie que nous entendons mettre en œuvre est de tenir ensemble ces moments de la recherche en sciences sociales qu'on considère rarement en lien les uns avec les autres. Le moment de l'écriture des textes, celui de la restitution des travaux, celui de leur adaptation dans une autre langue et celui de leur réception dans la sphère publique. Pour ne prendre que la question des conditions de possibilité d'une circulation internationale des textes, l'objet de cette journée, la revue Bien Symbolique, Symbolic Goods revendique un important travail autour de l'écriture même des articles, en lien étroit non seulement avec les auteurs, mais aussi avec les traducteurs et traductrices pour chacun des papiers que nous publions dans la revue. Dès l'étape de l'écriture, par exemple, nous invitons les auteurs à prendre en compte la traduction à venir et à retravailler leur texte original dans ce sens. Cette prise en compte de l'adaptation dans une autre langue, dans l'écriture même du texte, et à notre sens, indispensable pour que le bilinguisme de la revue ne soit pas qu'un label à la mode, mais une pratique systématique qui oriente véritablement tout le travail scientifique et éditorial de notre revue. C'est toujours en nous appuyant sur la revue Bien Symbolique, Symbolic Goods, que nous comptons initier une discussion avec les autres revues européennes en sciences sociales traitant des thématiques artistiques, culturelles, intellectuelles, etc. Pour cela, nous pouvons par exemple d'ores et déjà annoncer qu'un symposium des revues européennes en sciences sociales des biens symboliques aura lieu à Paris début 2020 dans le cadre du programme Possible. Afin de construire une mise en réseau de ces revues et un véritable espace de réflexion et d'échange international sur les pratiques scientifiques et éditoriales, ainsi que sur les enjeux de l'édition numérique. Enfin, en dehors de la revue elle-même, le programme Possible entend mettre les recherches à disposition du public non académique, à travers la tenue d'un blog associé à la revue, sur lequel reviendra Wenceslas tout à l'heure, mais aussi à travers l'organisation d'un certain nombre d'événements susceptibles de mettre en lien les universitaires, les professionnels de la culture et des médias, les étudiants et le public. Sont ainsi notamment en préparation un séminaire international francophone qui aura lieu en 2019, ouvert à toutes et tous autour des enjeux politiques et sociaux de la notion de biens symboliques, autour de leur production, de leur circulation, de leur réception. Auront lieu également des événements participatifs et des ateliers en partenariat avec les musées et bibliothèques de Paris sur des thèmes d'actualité, télévision et démocratie, les enjeux sociaux de la révolution numérique, culture et précarité, etc., qui seront l'occasion de présentations de recherches en cours, d'expérimentations et d'échanges avec le public. Enfin, ces événements, comme celui d'aujourd'hui, seront filmés et mis en ligne, et si nous trouvons les moyens de le faire, ce que j'espère, sous-titrés, pour les publics sourds et malentendants, comme pour les publics anglophones, j'anticipe un peu sur la troisième table ronde de la journée, afin que chacun et chacune puisse y avoir accès et les commenter en ligne. Car si le programme Possible et la revue bien symbolique Symbolic Good se veulent résolument inscrits dans le monde savant, ils ne se cantonnent ni au monde universitaire ni aux frontières nationales. Les biens symboliques sont avant tout des biens communs. Notre but est donc de mettre en place les outils pour permettre aux échanges entre chercheurs, professionnels de la culture et publics de fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire afin de mettre en pratique des sciences sociales qui soient à la fois participatives, critiques et citoyennes, susceptibles d'aider à la construction d'une opinion publique informée et à des prises de décision éclairées dans le monde social, politique, médiatique et culturel.
Bon, alors pour aller plus avant dans la présentation de la revue, il faut que j'appuie sur le bouton pour allumer le micro. Pour présenter la revue, je voudrais commencer par souligner une caractéristique qui est sans doute peu visible de l'extérieur, mais qui, je crois, nous tient à cœur au sein du comité de rédaction, c'est le caractère très collectif de ce projet et du travail que nous accomplissons pour faire exister cette revue, tant sur le plan matériel qu'intellectuel. Il faut dire que en fait, la composition du comité de rédaction et son fonctionnement ont fait l'objet de réflexions, et au-delà des affinités et de l'estime mutuelle que nous portons au sein de ce comité, nous avons fait prévaloir certains principes, au moins deux, l'égalité de statut et la parité homme-femme. Voilà. Je le dis parce que ça reste souvent non dit ou laissé de côté quand on présente une revue, mais en fait, il nous semble que pour nous, ça a été important, parce que ces principes favorisent, nous pensons, les objectifs vers lesquels nous essayons de tendre dans notre fonctionnement interne. D'abord, une forte division du travail, et puis des prises de décision qui soient véritablement collectives. On a voulu à tout prix éviter d'abord la revue identifiée à une figure dans notre univers, et puis éviter aussi une revue, un fonctionnement au sein duquel un noyau de 3-4 personnes font presque tout le travail et le reste du comité de rédaction finalement lit et évalue des textes. Voilà, on a voulu éviter ça et ça me semblait important de le dire ce matin. Ça fait partie aussi de l'esprit de la revue. Alors si nous avons créé Bien Symbolique, Symbolic Goods sous la forme d'une revue bilingue à vocation interdisciplinaire et internationale, c'est d'abord pour proposer un espace d'institutionnalisation, de confrontation et de visibilité internationale aux travaux de sciences sociales sur les biens symboliques. Nous voulons que la revue devienne un support bien identifié dans l'espace éditorial international, un support qui nous semble encore absent malgré le nombre toujours croissant de travaux de sciences sociales dans le domaine des biens symboliques. Nous voudrions que ce lieu de diffusion scientifique que constitue la revue permette à la fois de mesurer les progrès accomplis dans ce domaine et de proposer des croisements originaux, l'interdisciplinarité pouvant favoriser cela, proposer des croisements originaux et des directions nouvelles dans ce domaine de recherche. Il s'agit ainsi de contribuer à l'existence d'un champ de recherche consacré aux biens symboliques champ de recherche qui se justifie par les spécificités de ces biens, hein, qui a déjà été évoqué par Séverine, ces biens qui, des plus légitimes aux plus ordinaires, sont produits, échangés et évalués selon des modalités qui échappent en partie au moins aux catégories les plus courantes de l'économie. Mais les biens symboliques participent aussi, plus généralement, de la construction symbolique du monde social. Nous entendons donc aussi, avec cette revue, les appréhender comme un prisme à travers lequel interroger le fonctionnement passé comme présent de l'ordre social et politique, interroger aussi les fondements de la légitimité de cet ordre social et les manières dont il peut également être contesté. Bien symbolique pour eux, les sciences sociales, les espaces intellectuels et culturels attentives à leur spécialisation et à leur autonomie. D'ailleurs, le dossier du numéro 4, qui sera coordonné par Mathieu Hochkorn et Jérôme Pacoret, sera d'ailleurs consacré à cette question de l'autonomie dans la production des biens symboliques. Par ailleurs, la revue ne se contente pas aux formes artistiques et culturelles les plus reconnues ou les plus légitimes. Au contraire, elle prend pour objet les biens symboliques au sens large, dont font partie les idées politiques, les divers éléments constitutifs des styles de vie, vêtements, habitats, nourriture, etc., les pratiques amateurs, les productions numériques et les discours médiatiques et les produits des cultures populaires. La question des cultures populaires est d'ailleurs présente dans le premier numéro avec la table ronde sur l'ouvrage « Le savant et le populaire » de Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, table ronde dans laquelle une dizaine de chercheurs reviennent sur leur appropriation de cet ouvrage de référence sur l'analyse des cultures populaires. Un autre aspect qui nous tient à cœur dans cette revue réside dans la pluridisciplinarité, voire, lorsque c'est possible, dans l'interdisciplinarité de la revue. Bien symbolique accueille des auteurs des différentes sciences humaines et sociales, sociologie, histoire, anthropologie, sciences politiques, sciences de l'information et de la communication, économie, histoire de l'art, etc. Alors c'est une chose qu'on a tenté de rendre visible et de faire exister dans le comité scientifique que vous pouvez voir à l'écran, à travers lequel on a aussi essayé de rendre concret caractère international de la revue, voilà, avec l'idée d'avoir aussi des correspondants dans des pays étrangers qui pourraient relayer la diffusion des productions, des articles et des numéros de la revue, et aussi des événements du programme possible. Voilà. Et pour revenir alors à la pluridisciplinarité ou à l'interdisciplinarité, c'est moins l'appartenance disciplinaire que le point de vue et les démarches auxquelles les arts, la littérature, les pratiques culturelles ou les idées sont soumis qui donnent son unité à la revue. Ainsi, deux historiennes, Audrey Millet et Déborah Cohen, et un philosophe, Michel Baudouin, ont contribué au numéro 1 de la revue, et le dossier du numéro 2 est coordonné par des littéraires. Dans ce dossier, intitulé « Arpenter la vie littéraire », des chercheurs en études littéraires proposent une discussion autour des humanités numériques et de l'usage des bases de données dans l'étude de l'imprimé et de la littérature. Voilà, Claire Ducourneau pourra peut-être en parler plus longuement dans le fil de la journée. Enfin, je ne sais pas si on abordera ce dossier du numéro 2, mais voilà, Claire Ducourneau qui a coordonné ce dossier. Alors, outre cette interdisciplinarité, la revue revendique son attachement à la dimension empirique des travaux, proposé aux lecteurs et lectrices, quels que soient les moyens d'investigation privilégiés par telle ou telle discipline, hein, recherche en archives, ethnographie, statistique, analyse de discours, d'images, etc. Toutefois, la réflexion théorique n'est pas exclue, mais nous privilégions vraiment le caractère empirique dans les articles qui seront publiés. Une autre caractéristique de bien symbolique réside dans l'association de trois domaines de recherche, art, culture, idées. Alors, paradoxalement, la science sociale de la culture, entendue comme analyse des pratiques culturelles, des goûts et de la réception par les publics, occupe souvent une place anecdotique dans les revues francophones consacrées aux formes d'expression artistique, que ce soit la sociologie de l'art ou d'autres domaines. Nous avons voulu les associer, enfin, qu'est-ce que c'est que les sciences sociales qui s'intéressent à la production et les sciences sociales qui s'intéressent à la réception, pour le dire comme ça, soient associées dans cette revue. La table ronde du numéro 1, dont j'ai déjà parlé autour de l'ouvrage Le savant et le populaire, traite en partie des questions de réception de la culture populaire, mais aussi, là, en l'occurrence, de réception d'une œuvre, réception par des chercheurs, réception d'une œuvre qui fait référence en sciences sociales. Et par ailleurs, sur la question du goût et de la réception, eh bien, un dossier est en préparation sur la question de la production du goût. Voilà. Dans les revues, ces deux domaines, production artistique et pratique culturelle, se voient moins souvent encore associés à l'étude des intellectuels et des idées. Ça, c'est vraiment une spécificité de la revue, qui est partie du constat que les travaux de sciences humaines et sociales qui abordent ces objets reposent généralement sur des problématiques analogues, voire identiques. L'objectif de bien symbolique est de favoriser les approches transversales entre ces domaines autour des questions fondamentales, des problématiques fondamentales justement communes ou identiques, comme celle de la production de la valeur, valeur artistique, valeur intellectuelle, comme celle du fonctionnement spécifique de ces sphères d'activité et des formes de domination qui sont à l'œuvre, ou encore la question de la production du goût et des idéologies. C'est ce que nous avons voulu signifier avec la publication dans le dossier « Artiste ordinaire » de l'article de Pierre Bataille sur une catégorie d'intellectuels que l'on peut également dire « ordinaire », celle des élèves des écoles normales enseignant dans le secondaire. De même, dans le numéro 1, la note critique de Michel Baudouin sur l'ouvrage d'Emmanuel Faye se situe clairement dans le domaine de l'analyse des productions intellectuelles et des idées. Alors, nous avons voulu faire de bien symbolique une revue exclusivement numérique qui offre à ses lectrices et à ses lecteurs un accès totalement ouvert à l'ensemble de ses articles, y compris les versions PDF. Alors, c'est aussi ça, évidemment, qui nécessite des partenaires généreux. Voilà. Ce choix est pour nous un choix politique qui s'inscrit dans la perspective d'une libre circulation des travaux de recherche réalisé pour l'essentiel sur fonds publics. Ce choix s'oppose à la publication chez des grands éditeurs scientifiques privés qui exploitent les chercheurs et dont les bouquets d'abonnements sont vendus à des prix effarants aujourd'hui qui ruinent les universités et les instituts de recherche. Les conditions d'accès fixées par ces éditeurs réduisent également le lectorat à celles et ceux qui étudient ou travaillent dans ces institutions et les barrières mobiles qu'ils mettent en place laissent trop longtemps refroidir des travaux qui méritent dès leur parution d'être divulgués et discutés. Le choix de l'accès ouvert s'inscrit donc pour nous dans la lutte actuelle des chercheurs pour regagner l'autonomie face à l'emprise des grands éditeurs de revues comme Elsevier ou Taylor & Francis. La revue s'accompagne d'un carnet de recherche hypothèse, que vous pouvez voir à l'écran, un carnet de recherche hypothèse en ligne qui a pour fin d'enrichir la circulation des travaux en proposant des prépublications, des réactions ou des compléments aux articles publiés dans la revue, tels que des entretiens, des documents additionnels, sonores ou vidéo. Ce carnet servira également d'interface entre les lecteurs et les lectrices, les auteurs et l'équipe de la revue. Il pourra aussi constituer un espace de ressources en matière de sciences sociales sur les arts, la culture et les idées. Il accueillera aussi l'actualité du programme possible, voilà, les événements, etc. D'ailleurs, là, on a pour l'instant la présentation de la journée de lancement d'aujourd'hui sur ce blog hypothèse. Voilà. Volonté donc de mettre à disposition sur ce carnet un certain nombre d'informations et de ressources, car la revue ne s'adresse pas seulement aux universitaires, mais aussi aux professionnels de la culture, aux enseignants, aux artistes et à toutes les personnes intéressées par les thèmes qu'elle aborde. Si nous avons voulu créer une revue bilingue français-anglais, comme on peut le voir notamment sur la page miroir, qu'on appelle page miroir, c'est-à-dire la page, on a tenu à ce que sur cette page apparaissent les titres des articles en français et les titres des articles en anglais d'un côté et l'autre en miroir lorsque les articles ont été traduits. Si nous avons voulu créer une revue bilingue français-anglais, c'est qu'il nous semble que les sciences sociales francophones des biens symboliques, malgré leur richesse et l'influence internationale qu'elles ont pu avoir, souffrent d'une relative invisibilité sur le plan international, en raison notamment de la domination de l'anglais. De fait, publier uniquement en français limiterait drastiquement l'étendue des échanges auxquels la revue entend prendre part. Mais à l'inverse, nous n'avons pas voulu publier en anglais seulement, car cela reviendrait à contourner paresseusement la question du poids de la langue sur la formation des concepts, à entériner sans résistance l'hypercentralité de l'anglais et à exclure du lectorat de la revue celles et ceux qui ne maîtrisent pas suffisamment cette langue. Voilà pourquoi nous avons voulu publier à la fois en anglais et en français. Nous avons fait ce choix dans les dossiers thématiques ou en varia, des articles en français avec leur traduction en anglais seront publiés. Voilà. Alors on ne peut pas tout traduire, d'ailleurs tout n'a pas un intérêt nécessairement international. Dans les rubriques, notamment, on ne traduira pas toutes les rubriques. Oui, non, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on ne peut pas surtout tout traduire. Ah. Non, mais bon. Il y a aussi des choses qui sont destinées plutôt à l'espace francophone. Voilà.
Je dis qu'un article sur la traduction est difficilement traduisible.
Voilà. nous voudrions même, par ailleurs, publier les articles en espagnol. C'était un rêve qu'on avait au début, pour favoriser une circulation réellement internationale et plurilingue, véritablement, des travaux. C'est un objectif que nous gardons à l'esprit si nous en avons un jour les moyens. La revue porte en outre une attention particulière aux recherches menées en dehors des aires anglophones et francophones. Je voudrais pour finir vous inciter à répondre à notre appel à contribution permanent pour des articles destinés à être publiés en varia ou dans ces différentes rubriques. Des appels à contribution dans le cadre de dossiers thématiques seront aussi régulièrement mis en ligne sur le site de la revue. Que ce soit en varia ou dans les dossiers thématiques, je précise que les articles font l'objet de deux expertises en double aveugle. Hein, c'est bien une revue à comité de lecture avec ce mode d'évaluation des articles. Nous souhaitons d'ailleurs faire preuve de transparence dans l'évaluation. C'est pourquoi nous avons mis en ligne notre formulaire d'évaluation, que vous pouvez voir à l'écran, et qui permet d'ailleurs aux auteurs de connaître plus précisément nos critères. Voilà.
Je vais faire vite parce qu'on est un peu en retard. Donc la revue, outre les dossiers thématiques qui feront l'identité de chacun des numéros, donc aura un certain nombre de varias qui seront traduits, et donc plusieurs rubriques, 5 rubriques qui ne seront pas présentes à chaque numéro, mais on va essayer de les faire alterner régulièrement. Donc la rubrique relire, lire et relire, le re est entre parenthèses, qui présente des comptes rendus croisés d'ouvrages récemment publiés sur un même thème, des réflexions autour de l'histoire et de la réception d'ouvrages majeurs dans nos disciplines et champs de recherche. Il pourrait également s'agir de donner la parole à des chercheurs et des chercheuses dont les travaux ont marqué l'étude de la production ou de la réception des biens symboliques, pour leur permettre de revenir sur leur parcours, en interrogeant notamment dans l'esprit de la revue les filiations intellectuelles, les conditions de possibilité et les modalités concrètes de production de leurs travaux. C'est ce que nous proposons notamment avec cette table ronde autour du savant et du populaire dans le numéro 1. Complémentaire de la précédente, la rubrique « Regard sur » propose de faire connaître des travaux en sciences humaines et sociales sur les arts, la culture ou les intellectuels qui ont été développés à l'étranger mais qui demeurent peu connus en France. Produire une revue bilingue comme bien symbolique, Symbolic Good, soulève une série de questions qui sont rarement explicitées sur la traduction en sciences humaines et sociales. C'est pourquoi dans la rubrique « Traduire », des professionnels de la traduction, de la culture, de l'enseignement, de la recherche qui sont habitués à travailler entre et avec plusieurs langues sont invités à expliciter leur choix et leur manière de faire en prenant donc des études de cas concrets. Dans le présent numéro, le numéro 1, Marie-Pierre Pouly revient sur les réflexions et les choix à la fois linguistiques et épistémologiques qui ont ponctué son travail de traduction de la sociologue britannique Beverly Skeggs. Donc c'est typiquement le genre d'article qui est difficile à traduire sur la traduction en français, la traduction en anglais, ça pourrait être un challenge intéressant. Donc avec la rubrique métier, bien symbolique, Symbolic Goods ouvre également ses pages aux professionnels de la culture au sens large pour des articles, des entretiens, des tables rondes consacrées aux pratiques professionnelles, à la médiation culturelle, etc. Dans le numéro 2, une conservatrice de la BNF décrira par exemple les enjeux et les contraintes de l'archivage du web littéraire. Enfin, autre espace original de réflexion sur la circulation des sciences humaines et sociales, la rubrique Transmettre propose des articles et des documents sur l'enseignement et la diffusion hors du monde académique des sciences sociales, de la culture et des idées. Dans le prochain numéro paraîtra ainsi un article de Marc Pernoux et Pierre-Emmanuel Sauvigné à propos d'un atelier sur le travail artistique mené avec des étudiants et des étudiantes du Master de Sciences Sociales de l'Université de Lausanne, qui a abouti à la création d'un spectacle mêlant musique et danse contemporaine. Et justement, en parlant de Marc Pernoux, transition habile vers la présentation du numéro 1, dont Marc est co-coordinateur.
Merci beaucoup, Séverine. Alors, Ico, coordinateur, donc, je tiens d'abord et avant toute chose à remercier Géraldine Bois, on devrait être deux à cette tribune, puisque nous avons coordonné ensemble le dossier du premier numéro de Bien Symbolique. Je souligne évidemment que ça a été une collaboration aussi harmonieuse qu'efficace, et donc je vais parler en notre nom à tous les deux. Mais je veux aussi remercier les rédacteurs-chefs de la revue qui sont assis à côté de moi, hein, qui ont suivi et accompagné ce dossier tout au cours de son élaboration, alors qu'on était en même temps en train de créer la revue, et qui nous ont proposé des relectures critiques très, très utiles de l'article introductif en particulier. Je remercie aussi Isabelle Guarnet, qui est pas loin dans la salle, voilà, qui est là-bas, qui a tenu le rôle de correspondante du comité de rédaction pour faire le lien entre les auteurs et les experts-expertes, puisqu'à l'époque on n'avait pas de secrétariat de rédaction, maintenant ça a changé très bien aussi. Et puis remercier évidemment les auteurs, certaines sont présentes dans la salle, mais aussi les experts et expertes qui ont relu les textes, suggéré des améliorations, les traducteurs et les traductrices bien sûr, qui ont fait pour la plupart un boulot formidable, et puis les presses universitaires de Vincennes qui ont rendu possible la publication en temps et en heure du dossier du premier numéro de Bien Symbolique, avec des contributions, me semble-t-il, de grande qualité, tant pour leur contenu que pour leur présentation bilingue, en miroir, comme on a vu. Donc tout ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés. Vous trouverez donc dans ce dossier intitulé « Artistes ordinaires » des articles concernant différentes disciplines artistiques. Je vais aller assez vite, il y a un texte d'Adrien Pégourdi sur les musiciens, une contribution de Serge Katz sur les comédiens dans l'audiovisuel et le spectacle vivant, un article de Jérémy Sinigaglia sur l'ensemble des arts du spectacle, hein, finalement, et puis un article d'Audrey Millet qui traite des dessinateurs travaillant pour les manufactures du luxe au XVIIIe siècle. L'article de Pierre Bataille, il a déjà été mentionné tout à l'heure, occupe une position un petit peu distincte, puisqu'à travers le cadre normalien enseignant dans le secondaire, il nous a permis aussi de tester la pertinence d'un prolongement de la notion d'ordinaire, hein, aux espaces de la production intellectuelle, donc une autre grande catégorie d'acteurs producteurs de biens symboliques. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus sur chaque papier, vous irez les lire en ligne, gratuitement, même en anglais si vous voulez. Je voudrais revenir sur les perspectives qui ont été les nôtres avec Géraldine Bois au cours de l'élaboration de ce dossier. Donc il faut savoir que ce premier dossier thématique de biens symboliques, il a une longue histoire, une histoire qui remonte au colloque organisé à Poitiers en 2012 sur la reconnaissance et la consécration artistique. Nous étions alors plusieurs à présenter des enquêtes sur des objets, des populations caractérisées par l'absence de consécration, par des formes mineures de reconnaissance. Il est apparu qu'il serait intéressant de se pencher un peu plus systématiquement sur ces questions à l'occasion d'une publication. Malheureusement, comme vous le savez, quel que soit leur intérêt, les projets éditoriaux ont parfois la vie dure. Et pendant plus de 2 ans, des péripéties indépendantes de notre volonté, évidemment, et sur lesquelles je ne m'étendrai pas, se sont succédées jusqu'à ce que Géraldine Bois et moi prenions la responsabilité de la coordination du dossier, et que de manière à peu près concomitante, hein, l'idée d'une revue dont nous discutions depuis très longtemps, hein, les uns et les autres, dizaines, douzaines de personnes dans le CR, donc on discutait de ça depuis assez longtemps, et donc l'idée d'une revue a pris forme, a pris corps à travers la constitution du comité de rédaction de ce qui allait devenir Bien Symbolique. Donc le projet devenant alors très concret, nous avons entrepris de caractériser aussi efficacement et précisément que possible cette idée d'artiste ordinaire pour essayer d'en faire un concept opératoire, ou au moins de voir où elle pouvait nous conduire, cette idée, dans l'analyse sociologique du travail artistique, et puis au-delà, je reviendrai dans un instant. On a essayé de voir dans l'article introductif du dossier, hein, Géraldine et moi, ce qui pouvait caractériser les populations enquêtées par les différents contributeurs ou contributrices dans leurs principaux traits communs, finalement. Autrement dit, être un artiste ou une artiste ordinaire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quelques grands points, je vais aller assez vite, parce que, comme ça a été dit, on est un petit peu en retard, et puis vous irez voir tout ça, évidemment, dans l'article en question. Mais enfin, ce qu'on trouve en commun chez ces artistes ordinaires, c'est, d'une part, le fait qu'il et elle exercent des activités hétéronomes, hein, un très faible degré d'autonomie dans ces espaces-là, à l'inverse de ce qu'on supposerait dans le champ artistique, leur définition classique, et donc tout ça va engendrer à la fois un rapport au public particulièrement marqué, enfin au public, un rapport à l'activité en général particulièrement marqué par les enjeux commerciaux, hein. On est plus souvent un prestataire de service pour un client, voire un employé subordonné à un employeur quand on fait une illustration pour une publicité, ou bien qu'on joue de la musique pour un mariage par exemple. Donc, ouais, toutes ces situations où on est vraiment dans l'hétéronomie, ça implique aussi par ailleurs, être un artiste ordinaire va nous développer ce qu'on pourrait appeler des compétences sociales ordinaires. Hein, quand on est un artiste ordinaire, on ne peut pas faire l'artiste pur, fantasque, dans sa bulle, etc., qui justement jouit de la présence d'intermédiaires techniques, administratifs, etc., pour maintenir sa pureté. Donc quand on est un artiste ordinaire, on doit être à l'heure, on doit être fiable, on n'a pas d'intermédiaire pour faire le tampon, s'occuper de la technique ou de l'administration. Donc finalement, voilà, ça contrevient aussi à certains égards à la figure un peu romantique de l'artiste, comme ça. Et puis ce qui caractérise les artistes ordinaires, bien sûr, c'est l'instabilité des carrières, hein. Alors, avec la démultiplication de l'activité professionnelle, qui est en général tout à fait indispensable, et puis d'une manière plus générale, des carrières courtes, des sorties de carrière, des carrières à la marge. J'ai pu parler à une époque des intermittents par intermittence, hein, considérant le turnover important qu'il peut y avoir dans cette population. Et puis aussi, voilà, toutes les questions de conversion de capitaux, de reconversion professionnelle que ça peut poser. Ces carrières d'artistes ordinaires sont aussi marquées par l'exercice bien souvent de l'activité dans des espaces et selon des formes mineures de la reconnaissance. Hein. Il s'agit bien souvent d'être, comme je dis souvent, un gros poisson dans un petit étang finalement. Hein. On reste dans sa ville de province ou dans son département. Permet de dire ça, je suis toulousain, j'étais musicien à Toulouse. Voilà, donc c'est vraiment l'importance des réseaux locaux pour la carrière, être bien vu des patrons de bar de sa petite ville de province, par exemple, c'est très important, c'est ce qui va faire que vous aurez du boulot, tout simplement. Donc on peut être un gros poisson dans un petit étang, être complètement inconnu à Paris, mais être un gatekeeper à Perpignan ou à La Rochelle. C'est aussi, donc, pour ces artistes ordinaires, la nécessité de distinguer, il nous a semblé, quand on étudie leur activité, important de distinguer précisément les conditions d'exercice de l'activité. On est un plasticien qui expose, d'accord, mais on expose où ? On est un comédien qui joue la comédie, d'accord, mais dans quel type de dispositif ? C'est ce que j'ai montré pour les musiciens aussi. Ce qu'on fait, c'est cacher d'intermittents dans l'animation des banquets du Rotary Club ou bien en jouant dans des salles de concert ou des festivals prestigieux. Dans les deux cas, ça porte le même nom de métier, mais la réalité sociale est très différente. Et puis, on trouve aussi chez ces artistes ordinaires, évidemment, des tensions extrêmement fréquentes entre ce qu'on pourrait appeler la situation objective et le vécu subjectif de l'activité artistique. Autrement dit, on ne vit pas vraiment ce qu'on espérait. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait quand on ne vit pas vraiment ce qu'on espérait ? Là non plus, je ne vais pas détailler un petit peu la typologie des formes de, comment dire, de résistance, de résilience, pour employer un terme que je n'aime pas beaucoup par ailleurs. Mais voilà, on a repéré en gros soit percevoir finalement l'insuccès auquel on est confronté comme une marque de pureté, hein, ce qui correspondrait un peu à cette posture critique de l'artiste maudit, une autre variante peut être l'accommodement modeste, sur le mode de l'artisanat finalement, c'est besogneux et modeste, ces carrières en demi-teinte si on peut dire. Dans d'autres cas on a des gens qui persistent, hein, dans leurs ambitions, on insiste, mais combien de temps ça peut durer aussi, c'est pas toujours évident. Espérer percer comme ça et avoir du succès à 25, 30 ans, ok, mais à 50, 55, ça devient de plus en plus compliqué. On a d'autres situations dans lesquelles on trouve des formes de requalification de l'activité, ce qu'on pourrait appeler des formes de professionnalisation, de transformation du créateur en créatif. Hein, où on va typiquement ne plus essayer de gagner sa vie comme plasticien, auteur, autonome, mais faire de l'illustration, des choses comme ça. Et puis enfin, la figure de l'entrepreneur finalement, là, essayer de s'en sortir par l'entrepreneuriat, donc en prenant en quelque sorte le contre-pied de l'artiste romantique, hein, dans le rapport à l'argent et à la pureté, en intégrant tout ça comme faisant tout à fait légitimement partie du travail de l'artiste, hein, aussi gagner sa vie. Donc on est dans un contre-pied par rapport à la figure de l'artiste romantique sur ce plan-là, mais en même temps on est dans un prolongement de la figure de l'artiste romantique dans le rapport à la singularité malgré tout, puisque pour être un bon entrepreneur, il faut être singulier, il faut être original, etc. Et ce dernier élément, je terminerai là-dessus, hein, ce dernier élément, comme beaucoup d'ailleurs de ce qui précède, pose un problème plus général du paradoxe des univers artistiques, puisque finalement, la figure sociale de l'artiste, en tout cas depuis la Révolution romantique, elle en fait un être exceptionnel, hein, doté de talents, de dons, etc. Mais de fait, la plupart des artistes ne parviennent pas au succès, la plupart des artistes, ils restent en bas de la pyramide. Donc finalement, la figure de l'artiste ordinaire, elle contrevient à l'exceptionnalité, au principe d'exceptionnalité qui caractérise en principe donc, l'artiste, entre guillemets, mais de fait, elle concerne la très grande majorité des artistes. C'est là-dessus que je terminerai, au-delà du travail artistique à proprement parler ou des espaces de production des biens symboliques les plus évidents, et c'est là où on passe du paradoxe au paradigme, ce qui est le titre de notre papier introductif avec Géraldine, l'artiste ordinaire du paradoxe au paradigme. Donc au-delà de ces espaces-là, il nous semble que la figure de l'artiste ordinaire, elle peut aussi constituer à certains égards un modèle pour l'analyse de ce que j'appellerais une injonction à la singularité comme vecteur de réussite sociale individuelle, hein, une injonction qui semble marquer toujours plus les sociétés contemporaines, en rapport au travail avec le néo-management et puis au-delà. Et donc marquer ces sociétés contemporaines et condamner finalement le plus grand nombre à l'insuccès, à l'échec, le tout sous le couvert naturalisé de l'inégale distribution du talent. Voilà, je m'arrêterai là-dessus, je vous remercie.